Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Est-ce l'amorce d'une période moins heurtée en Espagne? Après plusieurs jours de dialogue de sourds, premier geste d'apaisement entre Madrid et Barcelone. Le président catalan repousse son intervention prévue lundi devant le Parlement de la Communauté Autonome, au cours de laquelle il pourrait décider de déclarer l'indépendance de la Catalogne. Du côté du gouvernement espagnol, l'heure est aux excuses suite aux violences exercées par la police lors des opérations de vote de dimanche dernier. Mais tout cela est bien timide, eu égard aux tensions extrêmes qui ont plongé l'Espagne dans sa pire crise politique depuis le retour de la démocratie il y a 40 ans. L'avenir du pays est en jeu, et celui de l'Europe aussi un peu. Alors comment comprendre cet épisode spectaculaire qui, s'il n'était pas imprévisible, surprend tout de même par sa radicalité? Une des grilles de lecture consiste à ne voir dans cette revendication séparatiste que l'expression d'une forme d'égoïsme, une région riche voulant faire sécession par défaut de solidarité avec les plus pauvres. Ce serait aussi le cas en Flandre, par exemple en Italie du Nord. Mais n'y a-t-il pas quelque chose de plus profond, voire de plus démocratique dans ces mouvements? L'indépendantisme est-il un égoïsme? C'est la question du jour dans notre club des idées auquel participe cette semaine Anastasia Colosimo. Bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, vous enseignez à Sciences Po et on vous entend désormais, c'était le cas cette semaine, dans les chemins de la philosophie. Vous teniez le journal exceptionnellement.
Oui.
Pour débattre avec vous, Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultant, par ailleurs éditorialiste à Challenge. Et puis Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur associé à l'EHESS. La suite dans les idées, c'est sur France Culture. C'est le samedi de 12h45 à 13h30. Alors, premier petit tour de table. L'Espagne est peut-être, on verra bien ce qui va se passer dans les prochains jours, mais peut-être à quelques jours d'une possible proclamation d'indépendance de la Catalogne. Est-ce que pour vous c'est une hypothèse exaltante, c'est quelque chose d'inquiétant, c'est une folie, Philippe Manière?
Moi je crois que c'est une folie. Je pense que les seuls arguments en faveur de l'indépendance sont purement émotionnels et moi c'est pas véritablement mon terrain de confort. Je pense que ça n'a aucun sens du point de vue des Catalans, si ce n'est justement pour se donner le plaisir de rester entre soi. Même du point de vue économique d'ailleurs, il est vrai que la Catalogne est une région riche, mais elle n'est pas beaucoup beaucoup plus riche que le reste de l'Espagne. Elle est plus riche que les régions les plus pauvres évidemment, mais ça n'est pas une différence aussi considérable que certains ont bien voulu le dire. Surtout la Catalogne perdrait immédiatement des avantages absolument considérables. Le libre accès au marché européen, son premier partenaire commercial, évidemment, ce serait l'Espagne. Et il y aurait des droits de douane pour les marchandises exportées de Catalogne vers l'Espagne. Enfin, c'est une espèce de balle qu'on se tire dans le pied. Ça, c'est mon premier élément d'analyse. Le deuxième, c'est que je crois qu'il ne faut pas oublier que dans cette affaire, chose qui compte à mes yeux beaucoup, c'est l'état de droit. En droit, on ne peut pas se déclarer indépendant si le reste de la famille, c'est-à-dire le reste du pays, ne déclare pas également sa volonté que la partie qui veut être indépendante le devienne. Et aujourd'hui, dans la Constitution espagnole, il n'y a pas de possibilité. Et je crois qu'il faut bien comprendre qu'une partie des politiciens catalans, qui pour certains sont parfaitement respectables, j'en suis évidemment convaincu, mais pour certains d'entre eux le sont moins, ont en fait une sorte de fonds de commerce dans cette affaire. Parce que comme on sait que précisément pour des raisons constitutionnelles, c'est impossible d'obtenir l'indépendance, on ne pourra jamais vérifier la vérité fondamentale de l'opinion en Catalogne, qui, selon tous les sondages, imperturbablement depuis des dizaines d'années, montre que la majorité des Catalans veulent rester espagnols. Les récents incidents ont certainement ébranlé un peu ces chiffres, mais en gros, les trois quarts des Catalans ont toujours affirmé qu'ils voulaient rester espagnols. Mais quand on ne pourra jamais le vérifier, puisque le référendum est illégal, il y a un fonds de commerce inépuisable jusqu'à la fin des temps pour ceux qui défendent la volonté d'indépendance au nom des Catalans. Je dis au nom des Catalans, je le mets entre guillemets naturellement.
Sylvain Bourmeau.
Je pense que ce qui se passe en Catalogne en ce moment est à la fois préoccupant et interroge au-delà des frontières de la Catalogne et même de celles de l'Espagne, tous les Européens au moins, parce que je vois ce qui s'y passe comme une sorte de symptôme d'un certain nombre de dérèglements, de dysfonctionnements, d'une forme de politique qui était liée à l'avènement de l'État-nation. Alors certes, avec des histoires particulières dans chaque pays et sensiblement différentes, mais malgré tout, quand même, cette longue histoire a été celle de la construction d'États-nations. Et puis après, ces États-nations ont décidé, pour beaucoup d'entre eux, de se réunir en Union européenne et qui s'est élargie. et donc de multiplier les niveaux d'administration et de gouvernement politique et de légitimité politique, puisque au niveau infra-national, il existait traditionnellement et heureusement des gouvernements locaux, que ces gouvernements locaux ont vu leur pouvoir en général accru depuis des dizaines d'années maintenant, et on ne peut que s'en féliciter, et que d'autre part, au niveau supranational, l'Europe, elle aussi, s'est mise à avoir beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire qu'on a, au fond, un mécano assez complexe, un empilement de légitimité politique, et je crois que c'est aussi là-dessus que prospère une crise comme celle que l'on voit en Catalogne. Mais c'est, pour moi, je dirais, ce serait peut-être le seul argument vraiment audible dans la revendication d'une autonomie, voire d'une indépendance de la Catalogne, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, cette région serait la bonne échelle pour une vraie gouvernance démocratique, parce que l'État-nation serait trop grand, et donc au fond, l'insertion d'une région à l'échelle de toutes les régions à l'échelle de l'Europe pourrait être la nouvelle carte, le nouveau puzzle. Ça, je peux l'entendre, c'est quelque chose qui est parfaitement dissible, même s'il faudrait tout de suite nuancer et rappeler que peut-être que en fait l'échelle qui s'affirme par la puissance économique, par la sociabilité, ce sont les métropoles, ce sont les grandes villes qui aujourd'hui sont plus importantes encore, à mon sens, que les régions.
Et mais, on peut aussi rappeler d'ailleurs que la coopération interrégionale au niveau européen existe déjà et est assez forte.
Bien entendu. Mais pour moi, il y a ce mécano, c'est un premier. Je vais pas développer les autres, on y reviendra, mais je vois au moins deux autres aspects qui participent du symptôme et qui me semblent importants. Le deuxième, c'est, on le retrouve dans le titre que vous avez donné à l'émission, Hervé, c'est au fond un phénomène que l'on voit à plein d'échelles se produire, c'est le syndrome du ghetto de riche. On sait qu'aujourd'hui, les ghettos, s'il y en a dans les villes, ce ne sont pas des ghettos de pauvres, comme autrefois, ce sont des ghettos de riches. Autrefois, les riches cherchaient l'expansionnisme. Aujourd'hui, ils se replient dans des gated communities. Alors, je sais pas, il suffit de regarder le système scolaire français. Il y a des tas de réflexes comme ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose en commun entre la Catalogne, l'Italie du Nord, la Flandre, où on voit des régions plus riches que les autres vouloir faire sécession. C'est des sécessions de riches. Bon, ça, c'est très inquiétant parce que ça indique quelque chose d'affaiblissement de la solidarité politique. Et je pense que la gauche a sa part de responsabilité dans cet affaiblissement. Mais troisième élément que je ne développe pas, que je cite simplement, évidemment, et ça c'est peut-être le plus inquiétant de tout, c'est la montée en puissance de la politique identitaire, de identity politics, comme disaient les anglo-saxons. Alors, ça a fait des ravages en ex-Yougoslavie à quelques centaines de kilomètres de chez nous. Mais je veux dire qu'on a là ce qui donne les comportements les plus incompréhensibles à mes yeux, des sortes de fanatismes régionalistes qui sont proprement effrayants.
Bon, alors vous venez de nous donner le plan de la discussion du soir, Sylvain Bourmeau. Je vous en remercie. Anastasia Colosimo. D'abord, peut-être votre appréciation de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Catalogne. Est-ce que c'est une inquiétude? Est-ce que vous partagez finalement cette inquiétude exprimée jusque-là? Ou bien est-ce qu'on peut aussi y voir une forme, je ne sais pas moi, peut-être de dynamisme démocratique? Après tout, organiser un référendum, certes illégal au regard de la loi espagnole, ça, c'est quand même toujours mieux que d'essayer de faire sécession par les armes.
En fait, justement sur ce sujet-là, je suis un peu partagée parce que il me semble que Sylvain Bourmeau a dit une chose très importante, qui est que tout ça se passe dans le cadre de l'Europe. L'Europe telle qu'on peut la vouloir, l'une des deux options de l'Europe, donc soit c'est l'Europe des nations, et donc là on est seulement dans l'échange économique, etc. Soit on est effectivement dans l'Europe fédérale. C'est ce vers quoi certains aimeraient tendre. En tout cas, c'est voilà une des choses qui est possible. Et cette Europe fédérale serait un peu sur le modèle de l'Allemagne fédérale avec des Länder, c'est-à-dire vraiment avec des régions. Et donc je pense qu'il y a une tension très particulière à ce qui se passe aujourd'hui en Europe, qui est que en fait on voit bien que la crise de l'État-nation vient aussi du fait que effectivement, si on pense l'Europe fédérale, c'est plutôt le niveau régional qui serait effectivement logique. Donc on pourrait dire effectivement, est-ce que c'est pas une recomposition beaucoup plus profonde, etc. Ensuite,
sauf
je pense que ce qui se passe,
mais les Catalans risquent de, enfin, pourraient rétorquer, ça n'est pas une crise de l'État-nation. Au contraire, nous sommes une nation et nous voulons un État. Donc c'est au contraire l'affirmation
non,
de l'État-nation.
Oui, parce qu'il y a une mise en abîme, évidemment. Eux, ils peuvent dire c'est notre nation, nous voulons notre nation. Ça, je suis complètement d'accord. Ensuite, ce qui est vrai aussi, c'est que tous ces pays se sont constitués différemment et dans l'idée de l'État-nation, que ça soit en France, bon, un peu plus tôt, mais en Italie, en Allemagne, en Espagne, etc., il y avait quand même l'idée aussi de dire que l'État-nation est justement ce qui surpasse aussi tous ces régionalismes. Donc, il y avait une idée qui était un peu différente. Ensuite, dans le cas précis de l'Espagne, je pense qu'il y a aussi des phénomènes, bon, il y a le phénomène économique, effectivement, du ghetto de riches, même si là, je rejoins Philippe Manière, je pense qu'ils y perdraient énormément aussi dans cette indépendance. Et ensuite, il y a des phénomènes strictement politiques, et là, c'est du jeu politique interne, qui est que les séparatistes catalans sont une minorité en Catalogne, que comme toujours, ce sont les minorités qui agitent la majorité un peu molle et neutre. Et enfin, il y a aussi un jeu qui se joue à Madrid, qui est que les séparatistes catalans sont soutenus par l'extrême gauche au Parlement, alors que le Parti Socialiste a rallié en fait les conservateurs en disant effectivement on ne peut pas laisser faire le référendum, on ne peut pas laisser la Catalogne se séparer de l'Espagne. L'extrême gauche agite tout ça aussi dans des débats qui pour le coup sont des débats plutôt internes politiques à l'Espagne.
Mais est-ce que la meilleure façon justement de mesurer les forces, même si vous disiez tout à l'heure, Philippe Manière, ça n'est pas possible aujourd'hui au regard de la constitution espagnole, mais une constitution ça peut aussi être modifié, et de laisser les gens véritablement s'exprimer et que ce problème soit réglé une fois pour toutes, enfin, ça n'est pas toujours, pas forcément une fois pour toutes.
Ce serait l'idéal. Simplement, une constitution, ça se change, vous avez raison, mais dans leur grande sagesse, tous les peuples ou presque qui se sont dotés d'une constitution ont prévu que la constitution ne puisse être modifiée qu'avec des majorités qualifiées qui sont très difficiles à atteindre. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste du droit constitutionnel espagnol, mais on ne peut pas dire sur un coin de table, bon, on va changer la constitution, puis on fait le test. Et c'est d'ailleurs un peu fait pour ça, pour ne pas qu'on puisse, au gré des modes, des envies des uns et des autres, changer ce qui est quand même la loi fondamentale des peuples. Alors, je reviens quand même à l'instant sur cette histoire d'état de droit, moi, à laquelle je suis très attaché. Bien sûr, on va me dire, oui, mais la révolution, elle était par définition illégale, or elle était bienvenue, compte tenu de l'oppression dans laquelle vivait l'essentiel des Français sous l'Ancien Régime. Très bien. Mais on ne peut pas dire que la Catalogne est opprimée. La Catalogne est parfaitement respectée. Les institutions espagnoles sont organisées pour donner au Pays Basque et à la Catalogne un degré d'autonomie qu'on trouve rarement ailleurs en Europe. Et donc, la dernière chose qu'on peut plaider, c'est que l'insurrection du peuple catalan est légitime.
Ça veut dire
ils
que pour
sont
moi, pour
absolument indéfendables s'ils prétendent, d'ailleurs ils ne sont pas assez fous pour le faire, qu'ils sont opprimés.
Est-ce que ça veut dire que pour vous, et d'ailleurs pour vous trois, n'est légitime ou ne sont légitimes que les revendications indépendantistes ou séparatistes qui sont le fruit d'une oppression, enfin, qui sont une réaction à une oppression?
Je réponds rapidement là-dessus. Ouais. Si on considère qu'il y a d'autres faits générateurs possibles, alors très vite, ça va être n'importe quoi. En France, je ne sais pas si vous le savez, il y a deux régions et deux seulement où les revenus marchands sont supérieurs aux revenus de transfert. L'Île-de-France et l'Alsace. Toutes les autres régions vivent en gros des transferts des autres, au moins pour partie. Donc si vous dites « je m'en vais si j'ai envie », je dis « demain l'Île-de-France peut faire sécession », ça n'a pas de sens. Donc un État est un État. Et donc, après, on reviendra sans doute sur un autre élément qui me paraît important, qui a été abordé, c'est l'articulation entre l'Union européenne, la nation et la région. Mais enfin, dans l'état actuel du droit et de la manière dont tout ça a été conçu, architecturé, on ne peut pas faire sécession pour de très bonnes raisons qui tiennent à la nécessité que tout le monde soit d'accord pour qu'il y ait un changement de frontières, un changement de souveraineté. Et on ne peut pas décider, on est quelques-uns qui en avons très envie, on part. C'est aussi simple que ça.
Sur ces différents niveaux de légitimité des séparatismes, des indépendantismes, Anastasia Kolossi.
C'est un peu compliqué de juger, nous, de l'extérieur, de la légitimité des mouvements indépendantistes ou pas. Ce qui est certain, par ailleurs, et ce qui est une question intéressante, c'est de voir que ça arrive aujourd'hui en Espagne. Vous avez dit dans votre présentation que c'est la plus grande crise que l'Espagne ait connue depuis 40 ans. L'Espagne, c'est quand même un pays en crise politique depuis très longtemps. Enfin, là, les dernières années, c'était pas non plus la fête.
Il y a donc, eu je plusieurs mois sans vient gouvernement, mais enfin, on peut dire quand même que celle-là, elle est particulièrement sévère, cette crise.
Bien sûr, elle est particulièrement sévère, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant que ça arrive dans un pays où, par ailleurs, l'État est quand même déficitaire. contraire. En France, par exemple, la Corse peut avoir des revendications et même très fortes, mais jamais les Corses ne sortiront de France parce qu'ils savent très bien que leur attachement à la métropole est nécessaire et qu'ils ont envie de l'État, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne s'imaginent pas sans les structures de l'État français. Ce qui est un peu inquiétant dans le cas de la Catalogne et ce qui est un peu inquiétant pour, à mon avis aussi, l'État espagnol, c'est que l'État espagnol, je pense, n'a pas du tout cette force de l'État français. Et d'ailleurs, il a assez bien prouvé son manque un peu de discernement dans la manière dont ce référendum a été réprimé de manière, pour le coup, peut-être un peu excessive, dans la manière dont il n'a pas réussi à instaurer un dialogue. Parce que la réalité, c'est que souvent, ces indépendantismes, c'est une question de reconnaissance. C'est souvent très symbolique, en fait. Souvent, ils ont juste envie qu'on leur dise « Vous existez, oui, vous êtes autonome. » Et en fait, tout ça, c'est souvent des mots qui sont...
Mais Anastasia, vous présumez que les indépendantistes auraient été ouverts à un dialogue. Moi, je pense que c'est une hypothèse déraisonnable. Alors, ils ne veulent pas du dialogue. Mais je pense
peut-être qu'un certain nombre de Catalans, en tout cas, d'accord. ne seraient pas tombés du côté de l'indépendance si l'attitude du gouvernement espagnol avait
été... C'était d'agitateurs qui sont fous.
Sylvain Bourmeau.
Manque de discernement, disait Anastasia Colosimo, pour le moins. Enfin, la façon dont le gouvernement de Madrid a géré cette crise est proprement pitoyable. Et je pense qu'ils ont jeté de l'huile sur le feu. Le maintien de l'ordre, en particulier, a provoqué, je pense, des sympathies pour la cause catalane auprès de gens qui n'avaient pas d'avis, mais qui, évidemment, pour des questions de principe, ne pouvaient que condamner la façon de faire de la police contre les gens qui voulaient simplement mettre un bulletin dans une urne, aussi illégal ce référendum soit-il. Donc, ça, je crois qu'il y a là un vrai problème. Mais vous parliez des crises politiques en Espagne. Enfin, c'est je trouve étrange qu'on n'ait pas encore fait référence à la situation du Pays Basque. Enfin, je veux dire que la crise politique majeure de l'Espagne depuis, enfin même avant, mais aussi depuis la démocratie et la fin du franquisme, c'est bien ces années terribles de violence extraordinaire pour une revendication d'indépendance d'une partie de l'État espagnol au Pays Basque, à coups de bombes et de dizaines et de centaines de morts. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose d'assez étrange dans la situation actuelle de voir cette violence symbolique qui serait la proclamation de l'indépendance de la Catalogne par celui qui en est le plus haut responsable politique, quand on la met à côté de ce qu'il a fallu déployer et qui n'a pas fonctionné, mais qui a entraîné l'Espagne dans ses crises et par ailleurs dans des législations indéfendables à l'égard des libertés publiques qui ont été terribles en Espagne. Donc je trouve qu'il y a des effets, des paradoxes historiques assez incroyables, d'autant que c'est, je dirais, un peu aussi en réaction à l'attentat qui cette fois a frappé Barcelone que les derniers soubresauts ont été provoqués, puisqu'ils ont accusé Madrid de avec des polémiques sur de ne pas avoir suffisamment protégé au fond la ville. Donc là, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là des choses. Après, sur votre question de l'oppression, ça me semble évident que les citoyens catalans ne sont pas opprimés. Effectivement, on a du mal à être en empathie avec eux, comme
Kurdes, par exemple.
J'imagine j'aurais pu l'être avec les combattants algériens pendant la guerre d'Algérie. Enfin, je veux dire
prenant une autre revendication du moment et un autre référendum pour l'indépendance, celui du Kurdistan irakien. Est-ce que là, l'histoire des Kurdes vous semble davantage légitimer cette revendication d'indépendance?
Oui, je pense. Parce que c'est une histoire qui est plus, enfin que je date de la constitution de l'État-nation kurde. C'est un peuple qui est à cheval sur l'Irak, sur la Turquie. Enfin, il me semble qu'il y a là une et puis surtout,
si vous remontez aussi loin dans l'histoire, on peut aussi remonter à l'histoire du franquisme.
Et puis, quand même, deux secondes, comparons la manière dont les Kurdes sont traités par le pouvoir turc d'Erdogan et la façon dont les Catalans sont traités par Madrid. Enfin, ça n'a strictement rien à voir.
Donc pour être indépendant, il faut avoir souffert, quoi. En gros, c'est ça.
Non, mais il faut avoir des arguments à faire valoir. Et encore une fois, toute notre conversation, on l'a dit une ou deux fois, mais on ne l'a pas assez dit, je pense, pour que les choses soient parfaitement claires. Toute notre conversation repose sur l'observation des faits. La majorité des Catalans ne souhaitent pas l'indépendance.
Bon, on ne le sait pas, puisqu'il n'y a pas de référendum. Mais
c'est ce que disent
organisé.
Ceux qui veulent organiser un référendum. Enfin, écoutez, toute la journée, on s'en remet au sondage, et là, il faudrait considérer qu'ils n'ont pas de pertinence. Ça fait des années qu'on sonde les Espagnols, enfin les Catalans, sur cette question, et ça fait des années qu'on voit très bien que les Catalans sont majoritairement hostiles. Ce qui, d'ailleurs, est à mettre à leur honneur, parce que je voudrais revenir un instant, si ça ne vous ennuie pas, Hervé, sur le titre de l'émission. Oui. Est-ce que c'est un égoïsme? C'est intéressant, parce que si c'était seulement un égoïsme, dans le fond, ils seraient favorables en majorité, puisque, nous dit-on, ils sont un peu plus riches que les autres. Encore une fois, ils ne le sont pas massivement, mais c'est un fait, ils sont un peu plus riches que les autres. Eh bien, la majorité des Catalans, en tout cas des gens qui habitent en Catalogne, il ne faut pas oublier qu'en Catalogne, il y a aussi beaucoup d'Espagnols non catalans qui sont résidents, et c'est bien leur droit dans l'état actuel des choses. La majorité des gens qui vivent en Catalogne, qui auraient le droit de vote si on faisait un référendum, ceux qu'on sonde, sont systématiquement hostiles à l'indépendance. Donc vous avez un territoire qui n'est pas maltraité par l'État central, où la majorité des individus sont hostiles à l'indépendance et où la constitution de l'État central interdit qu'on organise un référendum. Alors évidemment, si j'avais une baguette magique, je ferais qu'on organise un référendum et la question serait purgée. On serait plus là pour en parler.
Mais comme en Écosse.
Comme en Écosse, si on veut bien. Ça ouvrirait au passage d'énormes problèmes, pas seulement pour les Catalans. Pour toutes sortes de gens, on ne s'avise pas assez des conséquences du Brexit qu'il va y avoir sur l'Irlande, sur l'Écosse, etc. Donc, n'oublions pas qu'on ouvre la boîte de Pandore dans ces cas-là. Mais moi, j'y serais prêt si une majorité des Catalans était favorable à l'indépendance ou si les Catalans étaient objectivement opprimés. Ni l'un ni l'autre n'est vrai.
Je voudrais vous citer l'extrait d'un article de La Tribune de Romaric Godin, journaliste qui travaille aujourd'hui à Mediapart, mais qui à l'époque, quand il a écrit en 2015, donc travaillait pour La Tribune et qui évoquait déjà à l'époque justement la situation en Catalogne, parce que ça rejoint cette interrogation sur la question de l'égoïsme ou de ces ghettos de riches. Et il dit ceci, il parle de l'austérité, de la mise en place de la politique d'austérité, qui a quand même été une politique assez violente quand même pour les Espagnols. Alors c'est pas de la violence physique bien sûr, mais enfin... violence économique et violence sociale. Il dit « Ce moment était d'une grande violence, il a été particulièrement mal accepté en Catalogne, région où l'on est très attaché à l'État-providence. Bien des Catalans ont mal perçu les coupes budgétaires imposées par Madrid et en ont conclu qu'une Catalogne indépendante pourrait mieux défendre son modèle social. » Ce que je trouve intéressant dans son approche, c'est de dire finalement cette revendication indépendantiste, elle l'est au nom justement d'un mieux-disant social et non pas au contraire au nom d'un égoïsme. Sylvain Bourmeau.
Alors là, ça pointe une chose intéressante qui, je dirais, vient apporter de l'eau au moulin d'une hypothèse que je voulais faire. L'hypothèse que je voulais faire, c'est que, au fond, si l'on voit cette question nationale surgir aujourd'hui dans l'espace public espagnol et catalan, c'est peut-être en raison d'un affaissement de la question sociale et de la question politique, et pour le dire autrement, d'un brouillage du clivage droite-gauche. Le brouillage du clivage droite-gauche, le fait que le PSOE, le Parti Socialiste Espagnol, ait mené des politiques qu'un certain nombre de ses électeurs à gauche aient trouvé trop à droite, que finalement les politiques économiques, en particulier du parti du PP et du PSOE, se soient rejointes, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays européens, ce brouillage idéologique a laissé un espace pour l'extrême gauche et pour parfois des extrêmes gauches colorées de revendications identitaires, nationalistes. Donc ça va dans le sens de la remarque que vous citiez, Hervé. Je pense que l'une des façons intelligentes pour l'État espagnol ou pour tous les responsables politiques espagnols de reprendre la main et d'atténuer le poids de la question nationale dans l'espace public, ce serait de repolitiser le débat, de faire en sorte, et je dis ça aussi à dessein, parce que on voit les dégâts qu'un brouillage du clivage droite-gauche peuvent provoquer sur un espace public. Je dis ça à dessein pour la situation française qu'on connaît. Donc, je pense qu'il est très urgent que Madrid, si Madrid veut régler cette crise, que à Madrid, gauche et droite se remettent à ferrailler de façon non pas factice mais réelle. Peut-être que de ce point de vue-là, ces vrais désaccords politiques prendront le dessus et on oubliera la question de la Catalogne.
Anastasia Colosimo.
Je suis pas vraiment absolument convaincue que... Je pense qu'il y a un vrai problème économique. Je pense qu'il y a certainement effectivement un enjeu de modèle social. Je pense que c'est d'ailleurs intéressant de dire on veut préserver notre modèle social. Comme c'est quand même la crise un peu partout, on va plutôt, vous voyez, minimiser le groupe. On va vraiment rester qu'entre nous parce que quitte à être solidaire, solidaire, autant être entre gens de bonne compagnie et qui s'aiment vraiment. Il y a aussi un côté comme ça, c'est-à-dire nous on va s'extraire de l'Espagne, on va faire notre modèle social entre nous parce qu'entre nous on est vraiment prêt à être solidaire avec le reste de l'Espagne, pas vraiment. Ensuite, je pense
s'il y a le constat que ce modèle social est justement menacé, on peut aussi y voir un projet politique, certes autonome, mais de défense, c'est-à-dire une vision un peu plus positive. C'est-à-dire que ça n'est pas juste du repli sur soi.
Non, bien sûr, mais ils peuvent aussi très bien, ces politiciens catalans, décider d'aller à Madrid et aussi de faire en sorte que ce modèle social, se battre pour ce modèle social pour toute l'Espagne, et pas seulement pour la Catalogne.
C'est-à-dire qu'il y a quand même d'autres. Espérer le faire à l'échelle européenne, c'est-à-dire une fois que la Catalogne serait un État qui serait accepté. Reconnu au sein de l'Union européenne.
Et dans ce cas-là, ça serait un modèle et la Catalogne serait leader en Europe.
Mais pour compléter le tableau, on peut prendre un autre exemple qui viendrait non plus à gauche mais à droite cette fois illustrer le même phénomène avec la Ligue du Nord en Italie. Au fond, c'est bien peut-être aussi parce qu'il y a eu ce brouillage entre gauche et droite en Italie qu'on a vu cette fois des gens plutôt à droite jouer la carte régionaliste avec ce parti extrémiste.
J'adorerais souscrire au titre de la symétrie de la démonstration, mais enfin, on peut pas dire qu'en Italie, il y a eu beaucoup de cas où on pouvait pas voter à droite avec un choix considérable et très clairement à droite. Donc, je pense pas que les Italiens soient en deuil d'une offre politique de droite. En tout cas, historiquement, sur les 15-20 dernières années, Berlusconi a joué un rôle considérable et donc quelqu'un qui ne serait motivé que par un vote de droite.
Mais c'est pour ça que la Ligue du Nord n'a pas connu de grand succès, au fond.
Probablement, d'ailleurs. C'est là où, dans un sens, ça vous donne raison. C'est-à-dire qu'il y avait une possibilité à droite, effectivement, d'exprimer un suffrage. Bon, moi, je crois que quand même, on voit bien qu'effectivement, et c'est ce que Sylvain nous mettait sur cette voie tout à l'heure, tout ça doit être articulé. Il y a l'Espagne, il y a l'État-nation et il y a la région. La région, moi, je continue à penser, je ne veux pas du tout donner le sentiment d'être méprisant, chacun a droit à son opinion, mais je pense qu'il y a quelque chose dans ces envies de souveraineté locale qui ressortissent un peu à la mode. Vous voyez, ça me rappelle un peu dans un sens, pardon, je vais vraiment pas me faire des amis, le bio, le vélo, c'est la mode. Ça passera, ça a certainement des qualités, pas que, on peut discuter, est-ce qu'on va sauver l'humanité en pédalant ou manger des yaourts bio, j'en sais rien, mais il y a plein de gens qui sont, ça ressortit presque à la religion. Je pédale, je sauve l'humanité, je mange du bio, donc je suis quelqu'un de bien. Eh bien, il y a aussi quelque chose comme ça dans le retour à des identités plus locales. C'est comme ces monnaies locales, vous voyez, il y a une espèce dans
c'est plus dangereux que les yaourts.
Le locavorisme, hein. Mais je pense que c'est plus dangereux que les yaourts, objectivement. Mais, il y a quelque chose qui est dans l'air du temps. Je parle de mode, j'exagère et c'est juste pour assumer jusqu'au bout. Mais il y a quelque chose dans l'air du temps qui rend le local désirable. Et je trouve ça très intéressant parce que souvent ce sont des causes qui sont enfourchées par la gauche, alors que la gauche, enfin à ma connaissance, elle était plutôt traditionnellement sur la thématique on est tous frères, abolissons les frontières, etc. Il y a quelque chose dans l'air du temps qui revient au local. Ça explique à mon avis la chose au niveau régional. Sur le niveau national, on en a parlé. Il y a l'hypothèse de Sylvain sur l'absence d'un clivage très net. Il y a aussi le discrédit qui s'attache à une grande partie de la crise politique, de la classe politique, dans une grande partie des pays d'Europe. Et évidemment, on a plus envie de voter pour quelqu'un qui représente une souveraineté locale, fût-elle fantasmatique, quand ceux qui se proposent à vos suffrages au niveau national sont soit notoirement corrompus, soit incapables de redresser le pays, etc. Au passage, l'Espagne ne va pas si mal, elle s'est beaucoup redressée au fil des mois derniers, il serait temps que les Français s'en avisent. Mais enfin, objectivement, la classe politique espagnole n'est pas irréprochable. Et puis, il y a l'esprit européen qui souffle sur tout ça, l'esprit Erasmus en un sens. C'est-à-dire que, et donc, il n'y a pas de place dans un cœur pour tout le monde, contrairement à ce que les mamans racontent à leurs enfants. C'est sûrement vrai pour les mamans et les enfants, mais on ne peut pas aimer plus l'Europe, autant son pays. Il y a un moment, un clou chasse l'autre. Et si il y a l'esprit européen qui ne se substitue pas complètement au désamour pour la nation, il y a de la place pour une espèce d'amour un peu bizarre pour tout ce qui est local.
J'aime bien cette idée qu'il y a un effet de mode. Je pense qu'ensuite, dans l'histoire de l'État-nation en Europe, typiquement, il y a eu quand même beaucoup d'épisodes de mode, où c'était à la mode quand même l'État-nation. C'est-à-dire que c'est quand même aussi notre
histoire.
Les modes,
ce sont des faits.
Oui, et ce qu'il y a aussi, c'est que dans cette mode-là, il y a quelque chose en fait d'ultra-conservateur. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est plutôt un retour à la tradition. C'est souvent extrêmement lié aussi à la pratique d'une certaine langue qui est en voie... Alors, ce n'est pas le cas pour la Catalogne, mais pour d'autres endroits où il pourrait y avoir des séparatistes. La disparition d'une langue, c'est le cas de la Bretagne, c'est le cas de la Corse aussi, etc. De la revendication d'une certaine identité qui n'est pas parfaitement celle du pays dans lequel on est, d'une certaine transmission aussi qu'on veut très forte. Généralement, ces régionalismes nationalistes ou ces nationalismes régionalistes, je ne sais pas comment il faudrait les appeler, sont liés effectivement à toute une culture qui est hyper transmise, qui est souvent d'ailleurs redécouverte et qui est en fait hyper proactive. Donc je pense qu'il y a là aussi une réponse à la dilution justement Erasmus de l'Europe et la volonté aussi, la crise de l'État-nation, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je ne peux pas tout à fait vous rejoindre, Sylvain Bourmeau, en disant que c'est seulement un problème économique, droite, gauche, etc. Je pense qu'il y a une vraie question politique, il y a une vraie question d'identité, qui est de dire à partir du moment où l'Europe ne me satisfait pas parce que l'identité de l'Europe n'est pas claire, que l'État-nation, c'est devenu effectivement, comme vous l'avez dit pour le coup, les grandes métropoles, et que bah moi, en fait, je ne m'identifie pas tout à fait en tant que Breton aux Parisiens ou en tant que Corse aux Parisiens. Il y a aussi la volonté de reconstruire une identité, mais ça passe aussi par un certain rapport aux grands-parents, je vous dis, au paysage, à la langue, à une certaine chanson, à une certaine cuisine. Et je pense que c'est aussi symptomatique aujourd'hui de quelque chose qu'on ne peut pas ignorer et qui est quand même assez intéressant.
Non, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne pourrait pas envisager de manière totalement, au moins théorique, le fait que de se dire, il y a peut-être déjà trop de niveaux de pouvoir. Alors, on parle souvent du millefeuille, fameux millefeuille français, mais qu'il y aurait un bon niveau qui serait le niveau local, disons régional, et puis un niveau qui serait européen, et que c'est peut-être aussi comme ça qu'il faudrait penser, non pas dans un conservatisme d'une identité, mais au contraire dans une refonte de l'exercice de la démocratie.
Moi, si je peux juste rapidement répondre là-dessus, je dirais que dans le cas de la France, le jacobinisme français fait que même quand on s'est lancé dans la décentralisation, le bilan de la décentralisation, il est quand même pas formidable, et on n'a pas vraiment réussi à déléguer. On a juste créé des instances sur instances. La dernière,
quand même, les grandes régions qui sont créées, la loi Nôtre,
parce qu'on essaye d'améliorer, mais enfin c'est quand même une catastrophe. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de débattre du fait de supprimer les départements, on ne les supprime pas, on fait des EPCI à la place, enfin bref, c'est vraiment un bordel sans nom. Et je dis ça pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une tradition, qui est une certaine tradition française, où même si on veut la décentralisation, on n'y parvient pas, et que nous n'arriverons jamais là-dessus à être allemand. Ou pour le coup, il y a effectivement une vraie tradition des Länder, du régionalisme, etc.
Mais c'est peut-être parce que vous êtes tellement imprégné de cette tradition que vous avez du mal à voir aussi le côté un peu exaltant et enthousiasmant qui est à l'œuvre aujourd'hui en Espagne, Sylvain Bourmeau et Philippe Manière.
Non, mais je crois qu'on vient de toucher du doigt une question très très importante, qui est celle de la bonne échelle de la pratique démocratique. C'est d'autant plus évident à mesure que l'Europe se construit, que l'État-nation, est-ce que ça reste pertinent, surtout quand on voit effectivement la politique professionnelle en crise profonde dans l'État-nation. Et on se dit qu'au fond, il faudrait être capable de faire en sorte que beaucoup de décisions démocratiques soient prises à des échelles beaucoup plus petites. Alors, ok, vous répondez, on a fait la décentralisation en France, mais qu'est-ce qu'on a fait avec la décentralisation ? Il suffit de regarder à quoi ressemblent les hôtels de région pour le comprendre. Les présidents de région se sont fait construire des palais, et donc ils ont tenté de dupliquer à l'échelle de la région un fonctionnement politique avec sa classe politique professionnelle, exactement sur le modèle de l'État-nation.
Son clientélisme et sa dépense publique.
Et encore pire que ça, puisque en général, il n'y a même pas d'espace public local, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médias indépendants locaux qui sont capables de façon pluraliste d'informer sur ce qui se passe dans la région, donc il n'y a pas de contrôle.
Il y en a quand même, c'est peut-être pas le cas de la presse quotidienne régionale, mais il y a un certain nombre de journaux alternatifs.
Heureusement, on a vu à Marseille, à Lyon, etc., dans quelques grandes villes, fleurir des titres de presse qui ont beaucoup de mal et qui sont courageux et qui font ce travail. Il faut le saluer. Mais enfin, c'est pas un fonctionnement idéal d'un espace public. Juste, par contraste, mais regardons de l'autre côté de la frontière avec la Suisse. Mais regardons ce que c'est que l'échelle d'une démocratie locale avec un personnel politique qui n'est pas professionnel, avec à la taille d'un canton des journaux indépendants qui contrôlent le fonctionnement du débat public.
Tout ça est vrai.
C'est
un modèle pour lequel j'ai énormément de respect, mais qui n'est manifestement pas importable en France pour des raisons à la fois culturelles et historique. Voilà, la Suisse s'est constituée d'une certaine manière, la France s'est constituée autrement, et donc voilà, c'est comme ça.
La politique semble s'y porter beaucoup mieux. Quand
ça, j'ai pas de doute là-dessus. Je pense que la Suisse est un des pays où la paix civile règne le plus, où le respect des opinions des individus et de la diversité sont le plus incontestable.
Et où on peut s'exprimer par référendum sur tout un tas de sujets,
oui,
d'ailleurs, au passage.
Hein. Alors, oui, d'ailleurs, c'est pas que. Oui. C'est intéressant, parce que souvent, d'ailleurs, les Français sont surpris, parce que comme les Suisses ne sont pas dupes d'eux-mêmes, très souvent, ils répondent non à des questions où les Français répondraient massivement oui. Genre, voulez-vous diminuer le temps de travail? Voulez-vous faire un tunnel de plus pour passer sous la... Les Suisses, très souvent, disent non, là où les Français diraient évidemment oui. Bon, peu importe. Juste, je voudrais revenir un instant sur ce fantasme de l'Europe des régions. Je vais être très trivial, mais... je discutais l'autre jour avec un grand ancien de la construction européenne qui me disait au début, quand on était 6, 9, 12, on parlait vraiment. Il y avait un certain nombre d'interlocuteurs qui se connaissaient et l'exposé des points de vue de chacun prenait une petite heure et puis ensuite on avait un certain nombre d'heures de débat. Aujourd'hui, pour que tout le monde s'exprime, il faut déjà compter une grosse demi-journée. Et encore, chacun s'exprime pendant quelques minutes, donc les points de vue sont caricaturés. Alors que nous ne sommes que 27, enfin, vous comptez comme vous voulez, compte tenu du Brexit. Il faut imaginer ce que serait une Europe des régions, ce serait l'ONU Empire. C'est-à-dire qu'on n'aurait absolument aucune capacité de faire avancer l'expression d'une opinion commune, d'une transaction, ça n'est pas imaginable.
Tout dépend des règles de fonctionnement dont vous vous dotez.
Mais les règles de fonctionnement, elles sont incapables d'abolir cette limite physique qui est que quand chacun parle, ça prend un certain temps et qu'à l'arrivée, vous avez fini la journée, personne n'a eu le temps d'échanger avec son voisin parce que chacun a juste exposé son point de vue. Ça n'a aucun sens opérationnel. Moi, je suis, sur le plan poétique, très attaché à cette idée folle. Mais d'un point de vue opérationnel, c'est une idée strictement, proprement, littéralement folle. On ne peut pas faire discuter ensemble, sans, mettons que après qu'on transforme l'Europe en Europe des régions, une centaine de régions, ça ne marcherait pas. On aurait au mieux ce qu'on a à l'ONU, c'est-à-dire beaucoup de blabla et pas grand-chose.
Donc fusionnant avec la Suisse et la Belgique, par exemple, peut-être pour limiter le nombre de pays au sein de l'Union européenne.
Si vous voulez fusionner avec la Belgique, il va falloir choisir si vous prenez les Wallons, les Flamands, parce qu'eux-mêmes ne sont pas, comme vous le savez, vraiment dans l'humeur de fusionner plus.
Anastasia Colosimo.
Je pense que je ne sais pas à quel point ça serait faisable, cette Europe des 100 ou 1000 régions. Ce que je sais, c'est qu'à mon avis, on peut. L'État-nation est en crise, mais l'État-nation n'est pas mort. Et l'idée de nationalisme n'est pas du tout morte. Et cette idée de nationalisme, elle est en fait parfaitement.
Et tant mieux ou pas tant mieux?
En fait, pour moi, c'est pas tant mieux ou pas tant mieux. C'est plutôt faisons avec ce qu'on a. C'est-à-dire n'allons pas non plus contre ce qui existe. Le fond de l'affaire européenne, c'est quand même ça. C'est qu'on n'arrive pas tout à fait à s'accorder parce que on n'est pas les mêmes, on parle pas la même langue, etc. Donc je pense que ça joue énormément et que l'idée de la nation, elle est quand même extrêmement rassurante pour beaucoup et que du coup il y a une confusion parce que normalement l'inverse de la nation c'est la région, sauf que du coup les régions se disent mais nous aussi on veut se constituer en nation et que du coup je pense qu'il y a en fait une confusion à plusieurs degrés et à plusieurs stades qui fait qu'effectivement à la fin c'est un peu compliqué, mais en France, on voit bien, par ailleurs, je voulais juste revenir là-dessus, en France, on voit bien que on a tout à fait réussi à sortir aussi de ces problématiques-là, même si elles existent, même s'il y a eu la Corse, même s'il y a le Pays Basque. Bon, la Bretagne, c'est vraiment calme depuis longtemps. Mais c'est toujours le fait quand même de minorités, ça, il faut quand même le rappeler, c'est très important, de minorités qui agitent aussi et qui ont un but politique. Et l'État français, parce que c'est un État très fort, a aussi réussi à juguler tous ces phénomènes.
Tiens, je ne sais pas d'ailleurs si vous savez que l'an prochain, il y aura un référendum d'autodétermination qui va concerner la France. On oublie assez souvent d'en parler.
Oui.
Ce sera en Nouvelle-Calédonie.
Exactement.
Oui, 2018,
prévu par
ça fait quand même un certain nombre d'années d'ailleurs qu'il y a un processus qui est en cours, mais on n'en parle pas beaucoup encore pour l'instant. Mais la France va revoir aussi, rejaillir ces débats. Pour conclure, Sylvain Bourmeau, sur l'idée de nation comme idée peut-être un peu rassurante et inquiétante à la fois.
La nation, c'est surtout le nationalisme qui m'inquiète, mais que ce soit le nationalisme à l'échelle d'un État-nation, la France par exemple, ou l'Espagne, ou peu importe, ou le nationalisme à l'État, à l'échelle d'une région comme la Catalogne, parce que ça peut être aussi un nationalisme. Donc au fond, Ce qui fait peur, c'est la dimension identitaire de cette politique. Il faudrait, de façon plus rationnelle, de façon plus sereine, essayer de réfléchir à la meilleure organisation possible d'un espace politique, démocratique. À quelle échelle? Quel type d'articulation entre différentes échelles? Je pense que c'est ça le plus important. Mais l'hystérisation des identités, on a vu, je parlais tout à l'heure, et c'est pas à la légère de ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, on a vu à quel point ça va vite, ça va extraordinairement vite, cette violence. Alors là, on n'a pas le Pays Basque, on n'a pas les bombes, mais il y a une violence symbolique que je trouve assez inquiétante dans l'épisode catalan.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Sylvain Bourmeau, Anastasia Colosimo, Philippe Manière. Philippe, je vous ferai suivre les mails de vegan, de cyclistes hein, et autres locaux qui ne vont pas manquer de m'arriver, j'imagine, sur ma boîte mail.
J'en suis sûr.
Merci à vous tous. On peut réécouter l'émission comme chaque jour sur franceculture.fr. Aussi longtemps que vous le souhaitez, on peut la télécharger pendant un an. Et vous pouvez donc, vous l'avez compris, nous écrire. Du grain à moudre, c'est une émission qui est préparée par Antoine Dulster, Fanny Richet, Virginie Leduo, Antoine Tricot et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Jean-Frédéric. Je vous retrouve demain pour Politique, si vous le voulez bien, Arnaud Laporte. Mais oui, vous le voulez bien, à midi.
Je serai pas là, à 11h59 pour vous donner l'antenne.
L'école mère de toutes les batailles, ce sera avec l'historien Christophe Prochasson. À 12h45, ce sera la suite dans les idées avec Sylvain Bourmeau. Et tout de suite... Ou presque tout de suite,
presque
Arnaud.
Tout de suite, une dispute cinéma, puisque nous sommes vendredi, mais avant cela, 19h, les titres de l'actualité avec Anne Fauquemberg.